Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons être en compagnie de Véronique Chauvy, qui a sorti son 5e roman aux éditions de Boré, L'ivresse du vent. Eh bien, on va découvrir tout de suite ce roman qui parle de passion de la course automobile au début des années 1900. Donc, dans quelques instants, rendez-vous avec Véronique Chauvy pour son dernier roman, L'ivresse du vent. Vous m'entendez bien là? Oula. Allô, vous m'entendez bien là?
Oui, je vous entends. Et vous, vous m'entendez bien? Ça marche?
Ça va parfaitement.
Bon, tant mieux.
Voilà. Alors, restez en ligne, je vous reprends tout de suite. Restez, ne quittez pas parce que j'envoie un petit...
Oui, pas de problème.
Merci. Some more. Stomp your feet if you like my beat. I like it. I like it. Voilà. Voilà, eh bien, chose promis, chose due, on va être dans quelques secondes en compagnie de Véronique Chauvy. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue à vous, sur Radio Craponne. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de vous, hein, puisque vous êtes sur Clermont, il me semble.
Voilà, sur Clermont-Ferrand, oui.
D'accord. Écrivaine, hein, c'est ce qu'on dit maintenant, il paraît.
Écrivaine, romancière,
oui. Oui, voilà.
Mais c'est vrai que j'aime bien la féminisation du mot.
Très, oui, mais on va le comprendre au travers de votre roman, je pense. Vous aviez un métier à côté de ça ou?
Alors j'ai été fonctionnaire pendant quelques années, mais pas très longtemps. Après, je me suis consacrée à ma famille. Et il y a ça fait 10 ans exactement que j'ai eu envie d'écrire. J'hésitais un peu à me lancer parce que je me disais que je n'avais pas forcément le profil, le CV. Et puis j'ai eu envie d'écrire une histoire qui alliait à la fois le cadre local, puisque même si je ne suis pas clermontoise d'origine, et ben je me considère comme d'adoption. Ça fait presque 30 ans que je suis dans cette région.
Oui, c'est bien, ouais.
Donc j'associe à la fois le cadre local et le cadre historique. Donc j'ai fait ce qu'on appelle les romans de terroir historique. Je me suis lancée et là, effectivement, j'arrive à mon 6e.
Oui, alors justement, puisque et tous aux éditions... Enfin, vous en avez 5 aux alors éditions de Boré.
Voilà, le premier était aux éditions des Monts d'Auvergne. À voilà. Partir du second, j'ai intégré de Boré. Et le dernier, là, sort effectivement chez de Boré.
Oui, donc le premier que vous aviez fait, c'est le Cri des hyènes. C'était en 2015.
Oui.
Et puis après, il a fallu attendre 3 ans pour Une promesse bleue horizon.
Oui.
Et qui a reçu un prix, d'ailleurs, en 2019, le prix...
Oh, 23.
Ah ben, moi j'en ai qu'un, oui. Le prix Lucien Gachot. Donc voilà.
Oui.
Et les autres?
Alors, il y avait eu avant le prix de l'ANDRA, qui est une association qui a son siège à Ébreuil, qui organise un salon du livre à Ébreuil dans l'Allier,
oui.
Et qui m'avait attribué le premier prix, aussi en 2018. Et l'année d'après, en 2019, j'ai eu le prix qui s'appelait à l'époque « Femme de toujours » du cercle littéraire Catherine de Médicis, un prix initié par la librairie Nora Cine d'Auvergne à Clermont.
D'accord.
Donc, prix, voilà.
Et le titre, c'était « Aux douceurs du temps ».
Et aux douceurs du temps, lui-même, il a eu un prix de l'ANDRA aussi.
Ah, d'accord. Donc ça a été votre 3e, on va dire.
Oui.
Et 2e chez de Boré. Puis il y a eu le dernier salut de l'Amazonie.
Oui, de l'Amazone.
De l'Amazone, pardon, c'est moi qui ne vois pas bien.
Oui.
En 2020. Et puis l'éclair d'argent, donc en 2021.
L'année dernière, oui.
Et alors celui-là, 2022, hein, puisque il vient de sortir, il est tout chaud celui-là. Hein.
Il est tout frais du mois dernier, le 10 mars.
Voilà, c'est ça. Alors là, on est... le titre, c'est « L'ivresse du vin ». On est au début des années 1900, donc c'est vraiment le début de l'automobile.
Oui.
Et on va découvrir avec vous dans ce roman, eh bien, beaucoup de... Bon, c'est vrai que c'était un peu l'apanage des hommes, hein, l'automobile au début. Mais on va voir quand même que quelques femmes étaient là. Et alors, vous appelez ça... c'est une fiction, hein, bien sûr.
Alors, c'est une fiction qui s'inscrit dans un cadre historique réel. Et mes personnages de papier vont croiser des personnages qui ont réellement existé, que ce soit des pilotes, donc des sportifs qui étaient très connus à leur époque, des constructeurs automobiles, des organisateurs de la compétition. Voilà, les deux catégories de personnages vont se croiser.
Oui, alors, vous dites que c'est la 6e édition. De la coupe Gordon Bennett a lieu en France sur le circuit d'Auvergne. Est-ce que c'est le circuit de Charade?
Ah non,
pas du tout.
Charade a été conçu bien après, dans les années 60. Mais... Non, c'est pas du tout. Oui, il y a parfois des personnes qui font un peu l'amalgame.
Oui,
le circuit d'Auvergne, c'est un circuit qui emprunte des routes, des routes balisées normales, disons.
Comme un rallye, c'est un rallye, quoi. C'est un peu un rallye.
Un rallye sportif.
Sportif,
rallye
sportif. Voilà.
Oui.
Donc là, vous allez nous emmener avec plusieurs personnes, hein, notamment, on va retrouver pas mal de femmes, alors qui sont très différentes dans la vie, hein, puisque vous parlez de Gabrielle, qui est une riche héritière, passionnée de conduite automobile, Hélène, qui est infirmière, c'est pas du tout pareil, et puis Sabine, elle, qui est, vous dites, la pétillante mécanicienne, donc... qui s'intéresse à l'automobile, peut-être un petit peu plus côté technique. Et au milieu de ça, on va avoir Edmond, qui est représentant de l'Automobile Club de France. Et tout ça, eh ben, ça va nous faire... Alors, cette ivresse du vent, c'est l'ivresse de rouler un peu vite.
C'est l'ivresse de la conduite.
De la conduite.
Rouler vite. Ça peut faire sourire maintenant, parce qu'à l'époque, eh ben, une voiture qu'on appellerait maintenant utilitaire, une voiture de tourisme, roulait à peu près, oh, le maximum, c'était 40 à l'heure.
Oui.
Bon, les sportives, elles allaient plus vite. Mais en ville, on roulait à 20 km/h, en campagne à 30, hein, de par la réglementation.
Oui.
Donc ça fait sourire, mais à cette époque-là, pour les débutants en automobile, on allait vite et on éprouvait de l'ivresse à dépasser la vitesse moyenne du piéton.
Oui, puis surtout, ce qu'il y avait, c'est qu'elles étaient souvent pas... Il n'y avait pas de capote, hein, je veux dire, il y avait le vent...
On avait elles étaient découvertes.
Elles étaient découvertes, on en avait le vent un petit peu dans le nez. Alors,
complètement.
On comprend.
Il fallait s'équiper au contraire.
Oui. Ah, oui. Mais on voit quand on regarde les anciennes choses, ils étaient très équipés. Pourquoi avoir voulu faire cet amalgame avec les femmes, les hommes? C'est vrai que le début, comme on disait en commençant, hein, le début de l'automobile était surtout... Pour les hommes, les femmes, elles y allaient du bout des doigts. Hein.
Alors, c'est un monde, qui correspond un peu aux valeurs de la société à l'époque, c'est-à-dire ce domaine à la fois technique et sportif était l'apanage des hommes. Et il y a quelques femmes. Alors, en vérité, mon héroïne Gabrielle, je l'ai quand même calée sur des femmes qui ont réellement existé, qui ont fait de la compétition automobile justement dans ces premières années du XXe siècle. Il y a eu une certaine baronne de Zuylaine, mais elle occupait une position privilégiée parce que son mari était le président de l'Automobile Club de France. Donc si elle a participé à des compétitions automobiles, mais des compétitions de renom, hein, c'était pas des choses pour figurants, mais des véritables compétitions, si elle y a participé, elle a été un peu favorisée par la situation de son mari. Mais il y a une autre femme, une sorte un peu d'aventurière qui s'est illustrée aussi dans d'autres sports, c'est Camille Dugas, qui a été une compétitrice hors pair, qui a fait des compétitions automobiles. Et, pardon, en 1904, elle se voit interdire l'accès à la compétition par l'Automobile Club de France. Donc c'est un peu un profil qu'on va retrouver dans mon héroïne Gabrielle, mais donc est inspiré d'un cas réel.
D'accord. Alors, vous avez voulu que vos... intrigantes, je dirais, soient quand même très diverses. Bon, Gabrielle, on a compris qu'elle était de la haute société. Par contre, Hélène est infirmière, on change complètement de registre, là. Elle s'intéresse à l'automobile, pourquoi ?
Alors, si Gabrielle, oui, s'intéresse à l'automobile, elle en possède une parce qu'elle fait partie d'un milieu favorisé. C'est vrai que les femmes, à cette époque, il y a aussi la duchesse d'Uzès, hein, qui a eu le certificat de capacité à la conduite, mais c'était des femmes d'un monde qui pouvaient se permettre de par leur situation financière. Après, Hélène, elle, qui est une infirmière, c'est une femme, dit-on, pour dire du peuple, hein, une femme assez basique, mais elle vit la passion automobile aussi à travers la relation qu'elle a avec un médecin, une relation... non officiel, hein, puisque le médecin est marié, et lui, en tant que notable de province, il a son automobile, et c'est un peu par là aussi que Hélène éprouve une passion pour la conduite, et c'est un rêve. Elle sait qu'elle ne pourra pas se le permettre, elle ne fait pas partie de ce monde fortuné qui peut se payer une automobile, mais c'est un rêve, et elle aime, elle s'intéresse aux compétitions, donc quand elle sait que la fameuse course Gordon-Bennett va passer dans sa région, elle est toute folle, toute excitée, parce qu'elle se dit, je vais voir passer les fameux bolides.
D'accord. Et enfin, pour Sabine, vous la définissez comme la pétillante mécanicienne. Alors elle s'intéresse plus au côté technique, moteur, que vraiment à l'automobile. Enfin, c'est forcément à l'automobile, mais...
Alors, c'est là pourquoi, comment ça lui vient? Ben, tout simplement parce qu'elle est la fille d'un garagiste de province et elle tient le magasin, son père tient un garage à côté d'un magasin de cycles, donc elle vend du petit matériel. Et à ses heures perdues, elle va voir son père, elle s'intéresse à la mécanique et elle apprend, en regardant son père, et puis il lui laisse un peu mettre aussi les mains dans le moteur, elle apprend à réparer les voitures et les pannes de voitures, un peu en tant, on va dire, un peu qu'amateur, amateur, mais enfin, elle s'y connaît, elle va pas le clamer sur la place publique, parce qu'on ne ferait pas confiance à une femme, hein, à cette époque-là, mais elle s'y intéresse, elle a quelques compétences, et justement, un peu l'intérêt de l'affaire, c'est que Gabrielle, la riche héritière, qui veut descendre en Auvergne par ses propres moyens, va faire sa rencontre et à toutes les deux, elles vont faire un binôme entre la conductrice chevronnée et puis l'assistante qui va l'aider à s'occuper de la voiture qui va un peu chauffer sur les routes d'Auvergne.
Et alors, au milieu de tous ces hommes qui voient peut-être ça d'un œil un peu rigolard.
Alors les hommes, la femme au volant. Alors la femme au volant, elle était quand même décriée parce que la femme à l'époque, elle devait rester chez elle, hein, c'était l'âme du foyer. Ou alors si elle en sortait, c'était comme passagère. Alors là, un homme, il était content d'exhiber dans sa belle voiture, d'exhiber une jolie femme en tant que passagère. Alors voir une femme au volant, c'était mal vu à l'époque. Hein. S'occuper d'une automobile, faire de la vitesse, c'était quelque chose qui était mal vu, on va dire, du beau monde, d'un cercle un peu de gens de la bien pensants de la société de l'époque.
Oui, mais donc ces femmes vont essayer, de faire la pige aux hommes, quoi.
Oui, mais je vous dis, il y a eu des précédents. Alors c'était ça, dans le début du mois, ça ne pouvait pas être les femmes du peuple. Déjà, elles n'avaient pas les moyens de se payer une automobile, elles n'avaient pas aussi un peu non plus le moyen, je dirais, un peu de l'ordre d'une pensée libre, de dire je vais conduire, mais déjà, elles n'avaient pas d'automobile. Mais les femmes de ce monde, à l'instar de la duchesse d'Utesse qui a osé être la première femme à conduire, sa devise, c'était laisser dire, bien faire et laisser dire. Bien faire et laisser dire, ça veut tout dire. Je sais ce que je fais c'est bien, et puis bon, la rumeur, je m'en importe peu. Et pourquoi? Parce qu'elle est duchesse, parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle a un certain pouvoir moral dans cette société aristocratique, donc elle peut se le permettre. Donc Gabrielle, mon personnage, qui n'a pas froid aux yeux, qui dirige l'entreprise de son père parce que celui-ci est handicapé, elle sait qu'elle peut prendre des initiatives et elle va les appliquer au monde de la conduite, parce que ce qu'elle fera, peu importe après elle, ce qui compte pour elle, en fait, c'est d'être une pionnière, d'être une de ces femmes, une de ces premières femmes à faire quelque chose qui choque un peu et qui empiète dans le domaine des hommes.
Voilà, donc tout au long de ce roman, on va voir ces femmes évoluer au milieu de ces pilotes masculins pour faire voir que même s'il y a très peu de femmes qui conduisent à l'époque, il y en a certaines qui peuvent tenir la dragée haute aux hommes.
Qui s'y mettent. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspirée aussi d'une illustration d'un magazine sportif de l'époque qui a beaucoup commenté la Coupe Gordon Bennett. Ce magazine, ça s'appelait La Vie au Grand Air. Et La Vie au Grand Air proposait un cadeau pour les gens qui pour inciter les gens à acheter le journal tout en suivant la Coupe Gordon Bennett. Il proposait de gagner une automobile. C'était le premier prix. Il lançait un concours. Et pour donner l'image dans la première page du journal, ils ont mis l'illustration d'une voiture conduite par une femme avec deux autres femmes passagères. Un peu pour montrer, c'est un peu aussi pour dire, conduire, c'est même si une femme peut le faire, c'est que c'est simple. C'est simple de conduire. En fait, c'était ces monstres de fer. Ils n'avaient rien de bien compliqué à l'époque. Hein. Enfin, ce qui était compliqué, c'était une fois qu'on était parti, il fallait savoir l'entretenir, mettre de l'huile, graisser le moteur régulièrement, éviter la surchauffe. Mais finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Donc c'était un petit pied de nez pour dire les femmes aussi peuvent conduire. Et je trouvais très amusant que pour proposer une automobile en cadeau, ils choisissent justement de mettre des femmes assises à la place du chauffeur et des passagères.
Oui, l'idée publicitaire était bonne finalement, parce que
Oui.
on pouvait dire que ben, tout le monde est capable de conduire une automobile.
Voilà, c'était incitatif aussi.
Alors, tout au long de votre roman, on va pas tout dévoiler, hein, mais il va y avoir quand même des rapports entre ces hommes. Il y a l'Automobile Club de France déjà, et puis entre tous ces hommes qui font de la compétition, quoi, qui vont être confrontés à quelques dames qui ont osé se lancer.
Oui, puis les personnages aussi entre eux, on suit un peu des duos. Hein. On a parlé de Gabriel et sa mécanicienne. Bon, il y a Edmond, le représentant de l'Automobile Club. Lui, il vient avec sa maîtresse parce qu'il espère un peu passer des bons moments, puis ses projets vont être contrariés malgré tout. Il y a l'infirmière et son fameux médecin, là. Enfin, tous ces personnages évoluent un peu en parallèle, puis finalement vont finir par se croiser. Il y a les conducteurs, il y a les sportifs, il y a les spectateurs aussi, et tous ces gens-là vont se croiser dans des situations un peu qui vont parfois de la situation comique hein, à la situation plus dramatique. Parce que puisque si on est sur la route, c'est qu'il y a aussi il peut y avoir des accidents et des situations dramatiques.
Oui, ça peut être un peu rocambolesque, mais aussi, eh ben oui, du moment que c'est un sport mécanique, il y a un risque.
Oui.
Même si les voitures vont pas à 150 à l'heure, elles vont quand même vite, il y a moins de
Oh,
protection.
les voitures de course aussi, elles ont fait dans nos volcans, elles ont fait des pointes à 150 hein, quand il y avait
À cette époque, oui.
en sortant des virages, quand il y avait des portions droites,
Ouais.
ils ont relevé à l'époque, oui, témoignages de journalistes à l'époque, et puis même au compteur, ils ont fait des pointes à 150. Et la moyenne des compétiteurs sur le circuit était de 70. Donc c'est
Oui,
dire qu'il y avait,
il
voilà,
faut.
il y avait des points, des pics dans tous les sens.
Oui. Donc, oui, puis on sait qu'elles étaient pas. Les chauffeurs n'étaient pas protégés comme maintenant. Hein, donc, quand on se faisait une sortie de route, on pouvait se faire très très mal.
Oui, ah oui.
C'était ça le problème. Il fallait bien savoir piloter pour eh bien qu'il n'y ait pas d'accident, enfin qu'il y en ait le moins possible. Et puis, comme vous disiez aussi. Bon, c'était pas des voitures fiables tellement, hein, donc parfois il fallait réparer sur la route.
Voilà, il y avait beaucoup de pannes, dû à la surchauffe du moteur, hein, dans nos routes de montagnes qui descendent, qui montent, qui grimpent, qui tournent. Il y a eu des problèmes de moteur. Ça a fait abandonner certains dans la compétition. Il y avait aussi beaucoup de crevaisons parce
Ah
que
oui.
les pneus n'étaient pas forcément fiables. Alors ceux qui s'en sont bien sortis, c'est les Michelin, hein, le roi du caoutchouc local.
Oui.
Eux, les pneus Michelin, ils ont inventé justement l'année de la Gordon Bennett la fameuse semelle antidérapante. C'est à cette occasion-là que ce pneu-là est sorti. Mais sinon, alors les Michelin n'empêchaient pas les crevaisons, mais il y a eu toute une installation de changement de pneus. Enfin, ils ont été très performants dans ce contexte, et les concurrents ont souffert quand même d'un manque un peu de clairvoyance dans ce secteur industriel. Il y a eu beaucoup, bon, on crevait beaucoup à l'époque, hein, pour rien, hein, mais même hors compétition, dès qu'on prenait la voiture sur les routes pour gagner, faire un circuit en ville ou en campagne, on crevait énormément.
Voilà, aujourd'hui nous parlons du dernier roman de Véronique Chauvy, L'ivresse du vin. Alors qu'il parle, bien sûr, vous l'avez compris, beaucoup d'automobiles. Oui, on crevait parce que tout d'abord, les routes n'étaient pas les routes qu'on a maintenant. Et les pneus non plus. Hein. C'est vrai que Michelin débutait aussi dans tout ce qui était le pneumatique, donc c'était pas encore très au point. Oui.
Oui.
Oui, je disais, les routes n'étaient pas ce qu'on.
Oui.
Oui.
Alors, elle n'était pas goudronnée, ça n'existait pas.
Voilà.
L'asphalte que nous connaissons maintenant n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme route? Les chemins de terre, les chemins de campagne, même en ville, voilà, c'était de la terre battue. Et en campagne, il y avait beaucoup la circulation de l'époque, c'était des charrettes, des troupeaux, des charrettes à bras. Donc, entre les sabots des animaux, les roues des voitures hippomobiles, ça creusait des ornières. Et il y a eu tout un travail énorme des ponts et chaussées, donc en prévision de l'organisation de la compétition, tout un travail pour niveler les routes, pour pelleter des tas de cailloux, pour niveler les nids de poules, et contre la poussière qui était forcément dégagée. Il y a eu aussi des essais, mais qui n'ont pas forcément bien réussi par de la pulvérisation d'une sorte de goudron de houille. Alors, ce n'est pas le goudron de bitume que l'on connaît maintenant, ça fait plus de poussière qu'autre chose. Mais voilà, il y a eu des essais d'aménagement des routes, mais évidemment, ce n'est pas les routes goudronnées que l'on connaît maintenant.
Donc, tout au long de votre histoire, on peut dire que vous parlez un petit peu du début de l'automobile, hein, parce que 1900, c'est quand même les débuts, les balbutiements. Hein, alors, il n'y avait pas encore...
Tout à fait, puisque les toutes premières, bon, c'est dans les années fin 1880, 1890, c'était vraiment le début, hein, puisque il n'y a qu'à voir... L'Automobile Club de France, qui est une association qui s'est conçue dans le but de soutenir justement la construction automobile, en encourageant la conduite automobile et les compétitions sportives, elle a été créée en 1895. Donc, lors de la Gordon Menette, elle n'avait que 10 ans, c'était tout jeune, c'était tout récent. Et la construction automobile en était vraiment... Alors, 1900 a été un tournant, justement, avec les premières courses Gordon-Bennett. C'était encore balbutiant au tournant du siècle, mais après, les progrès sont allés très vite. Hein. Comme toujours dans une invention industrielle, on va quand même très vite. Et 1905, il y avait énormément de constructeurs. On en recensait dans les 170 en France. C'était énorme, ça veut dire qu'il y avait une concurrence énorme, et qui dit concurrence dit progrès, forcément. Donc il y avait beaucoup de compétitivité, et on arrivait quand même en 1905, c'était pas que des vieux tacos, c'était quand même des belles voitures qui démontraient quand même une technologie de pointe.
Voilà, donc nous sommes avec Véronique Chauvy qui nous parle son roman L'ivresse du vent aux éditions de Boré. On va faire une petite pause musicale avant de continuer pour aller un petit peu plus loin, puis terminer sur ce roman. Alors là, on est absolument dans les années dont vous nous parlez, puisque c'est une chanson qui remonte au début des années 1900. Et on se retrouve tout de suite après, je t'attendrai à la porte du garage.
Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe panhard et le vassor qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant. Au lieu de partir dans le vent, je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de l'Arbonne. Toute la nuit, le moteur frambrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là? L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan, qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux deux bons vieux. C'est la minute d'émotion. Ah, quel bonheur à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé. Nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser.
Voilà, je t'attendrai à la porte du garage. Et ben oui, c'était le début de l'automobile. Il y avait déjà des chansons hein, qui en parlaient.
Celle-ci est particulièrement bien choisie.
Ah oui, oui, parce que je vais, je sais que de temps en temps, j'aime bien la passer parce qu'elle est marrante. Et c'est Charles Trenet qui l'avait initié.
Et elle reflète le climat de l'époque.
Ah ben exactement, puisqu'il dit on va ralentir pour pas te doubler avec nos vélos, donc. Et alors oui, ça m'a puis me rappeler, il y avait pas mal de conduite à droite hein, à l'époque aussi. La conduite
alors
à gauche, le volant était à droite.
Le volant. Oui. Alors le volant était à droite. Vous voyez, on le voit bien sur les photographies de l'époque. Le volant était à droite, ce qui était un héritage de la conduite des voitures hippomobiles, où le cocher il est plutôt placé à droite hein, pour. Puis de la main droite, il tient pour fouetter le cheval, pour le faire avancer l'allure. Il tient le fouet de la main droite. Donc, on m'a expliqué que c'était cet héritage qui se retrouvait dans le poste de conduite à droite.
D'accord. Oui. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on voit, puisqu'il y a des concentrations de vieilles voitures, on voit des voitures qui sont en très bon état encore, hein, parce qu'il y a des gens, des collectionneurs qui les ont.
Qui
les entretiennent, puis qui sont très très belles et qui marchent très très bien, hein, parce qu'il y en a qui roulent et qui font des kilomètres encore hein, avec. Hein.
Et oui, donc, ben, notamment qui sont venus parce que cette course Gordon Bennett, donc de 1905, on a fêté son centenaire en 2005, et je me souviens, bon, le sujet m'intéressait pas forcément à l'époque, ouais. Mais en 2005, on a fêté le centenaire avec une reconstitution de la course, avec des voitures d'époque, donc ils sont venus un peu de partout de France et même de l'étranger, des voitures qui, soit des voitures appartenant à des collectionneurs d'une époque un peu plus tardive, mais il y avait aussi des modèles qui avaient participé à la course de 1905. Oui, oui, donc ces voitures sont en état de rouler, effectivement.
Et elle existe toujours, cette compétition Gordon Bennett ou...
Et non, et celle de 1905, donc en Auvergne, a été la dernière. C'était la sixième édition. Et ça a été la dernière. Et c'est l'Automobile Club de France qui a pris la décision, un peu à la veille de la tenue de la course, qui a décidé que ça serait la dernière édition. On ne savait pas encore. On pensait peut-être que ça allait se perpétuer. Et ils ont annoncé, c'est la dernière édition. Et ils l'ont transformée. Ils ont après fait d'autres compétitions. Ils ont appelé le Grand Prix de l'Automobile Club de France. Mais en tant que nom, que Gordon Bennett, c'est celle d'Auvergne de 1905 et la dernière du nom.
D'accord, oui, parce que des fois, il y a... On sait comme il y a le Monte Carlo historique, donc ils auraient pu relancer dans ce sens-là.
Oui, mais ça a été envisagé, le Grand Prix après a été envisagé différemment, d'autres circuits, d'autres modalités, mais on peut dire que soit le Grand Prix dont je parle là, qui est postérieur à la Gordon Bennett,
oui.
Mais aussi la Gordon Bennett, ce sont vraiment les ancêtres de nos Grands Prix, de nos grands rallyes automobiles qu'on connaît, qu'on a connus après dans les années ultérieures et qu'on connaît encore. Hein.
Ouais. Ben voilà. Donc dans votre livre, on va se remémorer un petit peu ce qui se passait dans ces années-là.
Voilà, raconté donc par le biais de personnages qui vont vivre au rythme de la course, ils vont vivre des aventures rocambolesques, des situations plus tragiques, hein, puisque je parlais d'accidents qui ont été inévitables hein, quand même dans les préparatifs. Donc les personnages, ils vont faire revivre cette course, mais de façon romanesque, avec bien sûr des éléments véridiques, mais de façon romanesque. Pour que le lecteur aussi n'ait pas affaire à un traité d'automobile pur. Hein. C'est pas le but. On est dans du roman.
Et donc, ça durait plusieurs jours ou c'était sur une journée ?
Alors, c'était sur une journée. Alors, oui. Il y a eu deux courses. parce que donc c'était une course internationale. Oui, on peut dire internationale puisqu'il y avait la présence des Américains. Sinon, c'était des pays d'Europe. Ils étaient 6 nations. Donc elle s'est courue le 5 juillet 1905. Il y avait 6 nations. Et chaque nation présentait 3 coureurs. Et pour la France, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de constructeurs, donc beaucoup de gens qui voulaient engager des sportifs dans la compétition. Donc il a fallu faire des éliminatoires. Et ces éliminatoires, elles ont eu lieu en juin, l'année précédente, le 16 juin, 3 semaines avant la course. Et là, au niveau des Français, donc c'est des éliminatoires françaises, les Anglais aussi en ont fait de leur côté, mais bon, forcément, chacun dans son pays. Et en France, ils étaient quand même 24 coureurs.
Ah oui, quand même.
Pour une dizaine de maisons, d'écuries.
D'accord.
Et voilà, donc ces 24-là, il n'y en avait que 3 à l'arrivée qui étaient qualifiés pour participer à la course du 5 juillet. Donc ces 24-là, il fallait quand même... Donc ils ont fait... le fameux circuit d'Auvergne. Ils l'ont fait une première fois au mois de juin, et après il y a eu la course officielle au mois de juillet.
D'accord.
Et ça se courait sur un jour, et comme la moyenne, les premiers, le départ était à 6 heures du matin, et le premier a dû faire son tour en 7 heures, enfin les autres un peu plus. Vous voyez, ça a commencé très tôt le matin, et à 15-16 heures, tout était fini. Il a fallu quand même, on va dire, 3/4 de journée.
D'accord.
Pour faire le circuit, parce qu'il fallait le courir 4 fois aussi. Hein,
ah oui, d'accord. D'accord.
Pour obtenir la longueur réglementaire à courir.
Ok. Donc voilà, Véronique Chauvis, l'ivresse du vin, on a parlé à peu près de tout, hein, de ce roman. Je ne pense pas qu'on ait oublié grand-chose à découvrir.
Oui, alors un peu aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi, ce qui m'a amusé en découvrant l'organisation de cette course, c'est le choc des cultures qu'il y a eu entre, on parlait de ces aristocrates, ces gens fortunés qui possédaient des automobiles, dont beaucoup venaient de Paris, hein, j'ai parlé de l'Automobile Club de France, ou même mon héroïne Gabrielle, elle vient de l'approche couronne parisienne. Donc ces gens-là de la capitale descendent en Auvergne et ils vont découvrir un autre monde, un monde qui est en sabots, en sarraux, qui conduit des troupeaux de bestiaux, l'Auvergnat moyen, comme on voit sur les cartes postales d'autrefois. Et de l'autre côté, les Auvergnats vont écarquiller les yeux en découvrant ces messieurs et ces dames distingués, habillés de manteaux adaptés à la route, avec les lunettes sur le nez, les dames chapeautées, avec des voiles sur le visage pour se protéger de la poussière. Ils vont découvrir ces automobilistes, ils ne vont pas en revenir. Donc ça donne aussi lieu, il y a eu dans la réalité des situations amusantes, un peu de ces contrastes de culture, et ça je ne me suis pas privée d'en faire aussi la trame de mon roman. Donc je voulais ajouter aussi ce petit détail de confrontation de deux mondes.
Eh bien écoutez, merci pour savoir tout. Eh bien, il suffit de voir dans les bonnes librairies, je pense qu'il est en vente déjà, Véronique Chauvis, l'ivresse du vin chez Deboré, et puis vous découvrirez l'automobile du début des années 1900, quoi, au travers de ce roman qui parle d'automobile, mais comme on a bien compris, pas seulement.
Non, de destin, parce que mes personnages, la course, elle va aussi changer quelque chose dans leur vie.
Voilà.
Il y aura un avant et un après Gordon Bennett.
Voilà, à découvrir. Voilà. Écoutez, Véronique, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous.
Alors, ma dernière question, ça c'est la traditionnelle à tous les auteurs, est-ce qu'il y en a un autre sous le coude, un livre ?
Alors, chez Deboré, en général, quand un roman sort, je remets en même temps un manuscrit, donc s'il est validé, là il est à l'étude, donc s'il est validé, eh ben, c'est pour l'édition de l'année prochaine, et sinon, eh ben, dès que je remets un manuscrit, dès que j'ai fini, je suis sur un autre, donc je suis dans les recherches et l'écriture d'un autre, oui, tout s'enchaîne, ça n'arrête pas.
Le thème, on peut avoir une petite idée ?
Tant que c'est pas validé, non, je suis superstitieuse, j'en parle pas.
Non, mais ça, c'est votre, vous avez le droit.
Mais j'aime bien, vous avez compris que j'aime bien changer de thématique.
Oui, donc là, ça sera totalement autre chose. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec une chanson, un peu plus rigolote, puisque c'est Carlos qui nous interprète l'auto du papa de Toto. Merci Véronique, et puis à une prochaine fois.
Merci à vous.
Au revoir. Merci, au revoir. Notre invitée du jeudi aujourd'hui était Véronique Chauvy, qui nous a parlé de son dernier roman, L'ivresse du vin, aux éditions de Boré. Cette émission que vous retrouvez le jeudi à 15h est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente fin de journée.
I like it like that.